Il est 8h.
On va redévelopper les trains de nuit. On va redévelopper les petites lignes de train. Parce que tout ça, ça permet de faire des économies et ça permet de réduire nos émissions.
Deux lignes hier, trois aujourd'hui, puis 10 demain. Annoncé par Emmanuel Macron le 14 juillet dernier, le retour en grâce des trains de nuit. Nous serons à bord du Paris-Nice, relancé hier, avec encore une petite odeur de poussière. Dans ce journal aussi, les armes qui se sont tues au Proche-Orient, le certificat sanitaire européen adopté hier et la programmation du festival Les Vieilles Charrues. Europe 1 vous la révèle ce matin. Catherine Ringer, Vianney ou encore Hervé, qui était mon invité il y a un instant. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, ancien préfet, spécialiste des questions d'immigration, Patrick Stefanini, auteur du livre Immigration, ces réalités qu'on nous cache. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Éloge de la lenteur ce matin. Un temps ringardisé par la vitesse des TGV et des liaisons aériennes low cost, le train de nuit va-t-il renaître de ses cendres ? Après l'avoir délaissé, l'État et la SNCF en tout cas veulent y croire. Écologique, économique, connectant les territoires, ces liaisons pourraient bien être l'incarnation du transport de demain.
Et pour marquer l'engagement du gouvernement sur cette relance du ferroviaire nocturne, Jean Castex a pris le train cette nuit, à Paris, direction Nice, une ligne qui rouvre aujourd'hui, 3 ans après sa fermeture.
Et à bord de ce train, on retrouve Jean-Gabriel Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez bien dormi, Jean-Gabriel ?
À vrai dire, assez peu, hein, mais comme beaucoup de passagers que j'ai croisés dans le couloir, comme Gabriel, encore les yeux rougis, réveillés en sursaut par l'appel du conducteur annonçant le premier arrêt à Marseille.
On dort, alors après on est un peu à l'étroit, faut quand même reconnaître. Non, moi j'ai l'impression d'être sur un bateau. J'ai dû rêver que j'étais sur un bateau.
Voiture suivante, Jeanne vient d'ouvrir le rideau de son compartiment et surprise...
La mer directement, c'est super sympa, c'est très beau. Dès le réveil, magnifique.
Magnifique et économique aussi, billet plus abordable, pas besoin de poser une journée de travail pour voyager. Et pour cette première liaison, désormais quotidienne, le train était complet. Beaucoup de jeunes, 4 personnes par cabine de 6 couchettes en raison de la pandémie. Pas encore de wagon-bar et il faudra faire un effort de rénovation, m'ont dit tous les passagers. Tanguy résume ses 12 heures de voyage.
Convivial mais spartiate, quoi. On ferait pas ça toutes les nuits non plus. Quoi. C'est vrai que ça manque d'une ou deux prises. Il faisait un peu chaud dans la couchette quand même. C'est sympa, c'est marrant quoi.
Et surtout idéal pour aller fêter l'enterrement de vie de garçon de son pote Maxence sur la Côte d'Azur.
Voilà, la prise dans les couloirs, va peut-être falloir changer ça. Vous êtes presque arrivé, hein, Jean-Gabriel Bourgeois. L'arrivée était prévue à 9h11, une petite demi-heure de retard, un peu après 9h30 donc.
Ah voilà, on ne change pas une équipe qui fait match nul comme on dit, mais cela dit oui, peut-être que les ambitions, les aspirations des voyageurs ont un peu changé avec le temps, les prises électriques et le besoin de wifi, etc. etc. On va continuer de voyager. Grâce à vous Isabelle Horry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, on s'est éloigné de Nice, où les Européens se sont mis d'accord hier sur un certificat sanitaire qui permettra de voyager plus facilement au sein de l'Union. Comment ça va fonctionner exactement ?
Eh bien, ce certificat doit vous permettre de passer les frontières plus facilement. De Paris à Vilnius, tous les Européens auront le même document avec les mêmes infos. Concrètement, ça sera un QR code sur votre téléphone ou sur papier. Vous le présenterez au douanier qui le scannera sans devoir déchiffrer une langue inconnue. Aujourd'hui, il faut un test négatif pour entrer dans la plupart des pays, dont la France, même si on est vacciné. À partir du 1er juillet, le certificat entre en service. Donc, si vous êtes vacciné, si vous êtes guéri depuis moins de 6 mois, plus besoin de tests pour voyager. Vaccin, guérison, test, tout figurera sur le QR code du certificat. Alors le Parlement européen et la Commission veulent qu'il devienne la norme, qu'on ne puisse rien vous demander de plus pour entrer dans un pays. Les États se sont engagés à éviter des quarantaines ou des tests à répétition, mais ils pourront le faire si la situation sanitaire se dégrade.
Isabelle, ce que vous décrivez, ça ressemble beaucoup à notre passe sanitaire français. Comment les deux dispositifs vont-ils s'articuler ?
Eh bien Mario, c'est normal hein, qu'ils se ressemblent parce qu'ils ne vont ne faire qu'un en fait. C'est plus simple, vous aurez un seul QR dans votre application Tous Anti-Covid, utile dès le 9 juin en France et dès le 1er juillet en Europe.
Une précision d'Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Alors que va changer ce certificat sanitaire ? On voulait ce matin prendre le pouls d'un professionnel du secteur. Bonjour Didier Arino.
Bonjour.
Directeur général associé du cabinet ProTourisme. Ce certificat, c'est une chance ou une contrainte ?
Ce certificat, c'est une chance extraordinaire pour le tourisme européen. Il faut savoir que bon nombre de pays, et notamment les pays du Sud, dépendent très fortement de l'activité touristique. Ça va aussi permettre aux Européens de venir dans l'Hexagone. Et si les réservations sont très bonnes pour l'été, le secteur touristique et plus particulièrement les grandes métropoles ont besoin de la venue de ces clientèles européennes au-delà de l'été pour une véritable reprise du secteur d'activité. Il faut savoir que le tourisme a perdu 70% de son chiffre d'affaires l'an dernier et que cette année, les pertes cumulées depuis le début du premier confinement vont dépasser les 1000 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire européen. Donc véritablement, ça marque le retour, non pas à la normale, mais une reprise très forte dans les mois qui viennent et qui prolongeront certainement un bel été.
Et aujourd'hui, vous sentez justement déjà une envie de voyager du côté des Français ?
Alors les Français ont envie de voyager, ils sont contraints de rester dans l'Hexagone, en tout cas jusqu'à présent. Il y aura bien évidemment les Européens qui viendront en France, mais il y aura aussi un mouvement des Français vers les destinations étrangères,
vers
européennes.
Vers où ? Il y a déjà des tendances ?
Les tendances sont très fortes avec 30% de nos concitoyens qui partent en vacances, qui aimeraient partir à l'étranger et seulement 12% qui envisageaient de le faire. Mmh. Et puis ça va sécuriser la fréquentation des acteurs du tourisme qui dépendent des clientèles européennes. Il faut savoir que les clientèles européennes, c'est 80% de l'ensemble des touristes qui viennent dans l'Hexagone.
Voilà, 80%, hein, donc l'analyse ce matin de Didier Arino du cabinet de conseil ProTourisme. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Retour au calme cette nuit au Proche-Orient après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas.
Sous l'égide de l'Égypte que le président américain Joe Biden a tenu à remercier hier soir.
J'exprime ma sincère reconnaissance au président Al-Sisi et aux hauts fonctionnaires égyptiens qui ont joué un rôle diplomatique essentiel. Je pense que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable pour atteindre cet objectif. Je crois que nous avons une réelle opportunité d'avancer et je m'engage à travailler dans ce sens.
Joe Biden hier soir qui se félicite de la fin des affrontements au Proche-Orient. En 11 jours, ils ont fait au moins 244 morts, dont une soixantaine d'enfants.
Votre journal se poursuit dans un tout petit instant sur Europe 1 avec Martine Aubry qui entend montrer qu'elle n'est pas une amiche anti-5G. Et puis en musique ce matin avec le Festival des Vieilles Charrues. Très bon réveil à tous, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, Marion Calais.
Après la publication d'un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire sur l'absence de risques nouveaux pour la santé, la ville de Lille accepte finalement le déploiement de la 5G. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. La maire de Lille, Martine Aubry, vient de signer une charte avec 4 opérateurs, priés de s'engager à respecter un certain nombre de conditions.
Oui, d'ailleurs, quand on demande à Martine Aubry si elle s'est résignée à déployer la 5G dans sa ville, elle répond au contraire que ce sont les opérateurs qui se sont résignés à accepter ces conditions, notamment une limitation du seuil d'exposition aux ondes de 6 volts par mètre, ainsi qu'un droit de regard sur les implantations d'antennes.
Quand l'opérateur nous déposera cette déclaration pour pouvoir mettre en place une antenne, lorsque nous ne serons pas d'accord, parce qu'on est proche d'une crèche, parce qu'on est proche d'une école, parce qu'il y a déjà plus de 6 volts par mètre, nous discuterons avec eux, soit ça sera un petit problème et on le réglera, soit ça sera pas possible et on trouvera une autre solution.
Au passage, un petit coup de griffe à Emmanuel Macron, la preuve que nous ne sommes pas des amiches, dit Martine Aubry. Alors pour les opérateurs, le contrôle de limitation d'exposition aux ondes va coûter plus cher, mais ils s'engagent au dialogue et pour nous c'est une petite révolution culturelle, concède Ludovic Guilcher, directeur régional d'Orange.
Et ça va dans le bon sens parce que le débat aujourd'hui il est saturé par la Covid, donc on n'a pas l'occasion d'expliquer ce qu'est la 5G en fait, on n'a pas eu l'occasion, on a envie de le faire parce que c'est un progrès. Donc oui, sans doute que pour nous, ça nécessite de sortir un peu plus de chez nous et d'aller expliquer.
Allumage de la 5G ici à Lille le 15 juillet prochain. Le temps pour tous les opérateurs d'installer et d'activer leurs premières antennes.
Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. Les dernières conclusions des autorités de santé sur les cas groupés de bébés naissant bras ou mal formés dans le Morbihan et en Loire-Atlantique. Pas de cause identifiée. Un renforcement de la surveillance de ces anomalies est tout de même recommandé.
Des Français à l'honneur. Nous Vous aimez Feu Chatterton, Marion Calais? Oui. Ça marche très bien en ce moment, ça. Et Europe 1 vous dévoile ce matin la programmation du Festival des Vieilles Charrues.
Avec aussi la révélation Hervé, chanteur breton, qu'on entendait tout à l'heure à 7h40, dire son bonheur d'être programmé au Festival Finistérien. Un enthousiasme partagé par les autres artistes à l'affiche qu'Angèle Châtelier a pu joindre pour Europe 1.
On est très contents de revenir sur scène et de repartir sur les routes, de rejouer. Ça va être super.
Marion Brunetto, qui s'appelle Requin Chagrin sur scène, trépigne d'impatience. Les contraintes sanitaires ne gâcheront pas son plaisir de jouer le 14 juillet au Vieilles Charrues.
Je pense que la joie sera là, avec le public même assis et masqué. Voilà, on va jouer le jeu.
Comme elle, une trentaine d'artistes sont programmés au festival, qui accueillera cette année 5 fois moins de spectateurs que d'habitude. 5000 par soir maximum, devant des artistes exclusivement français, comme Feu Chatterton, Vianney, Iseult, Benjamin Biolay. Comment est la peine ? La mienne est comme ça. Ou encore Catherine Ringer. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, ma tiens. Jérôme Tréorel, directeur des Vieilles Charrues, n'a pas eu de mal à convaincre les artistes.
On a entendu même certains qui disaient que voilà, même s'il y avait 50, 100 personnes ou 5000, nous on joue, on veut jouer, on veut être là, on veut célébrer les retrouvailles.
Des artistes qui, pour la plupart, privés de scène depuis un an, n'ont pas pu dévoiler au public leur nouveau titre. C'est le cas du groupe de disco-pop L'Impératrice, qui se rattrapera le 11 juillet en jouant Takotsubo, son deuxième album sorti il y a 2 mois.
Les Vieilles Charrues, le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix dans le Finistère en partenariat avec Europe 1. Alors du 8 au 18 juillet prochain avec des soirées spéciales, Émilie Mazoyer sera sur place pour vous faire vivre la reprise des concerts, vivre ce Festival des Vieilles Charrues.
Et pour faire vivre la culture, Emmanuel Macron va tout à l'heure à Nevers pour annoncer la généralisation du Pass Culture, 500 euros d'aide pour les jeunes répartis de la 4e jusqu'à 18 ans.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité Patrick Stefanini qui publie Immigration, ces réalités qu'on nous cache aux éditions Robert Laffont. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Patrick Stefanini, qui publie Immigration, ces réalités qu'on nous cache chez Robert Laffont.
Bienvenue à vous et bonjour Patrick Stefanini.
Bonjour.
Vous êtes également ancien préfet, spécialiste effectivement de ces questions d'immigration. En quelques jours, plus de 8000 migrants ont rejoint clandestinement les côtes de l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. Ou en transitant par le Maroc, l'Espagne a évoqué une agression des frontières de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, ce genre de crise, de situation est amené à se renouveler?
Oui, je le pense. Alors, je crois que ce qui se passe à Ceuta et Melilla, d'abord peut-être un mot d'explication, ce sont deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Et du coup, ce sont ce qu'on appelle des frontières extérieures de l'Europe. Donc ce sont des frontières pour l'Espagne, naturellement, mais ce sont aussi des frontières pour l'Europe, puisque les personnes qui auront réussi à pénétrer à l'intérieur de ces enclaves, ensuite, en application du principe de libre circulation, elles ont la possibilité de rejoindre le continent européen. Et la question de la maîtrise des frontières extérieures de l'Europe est une question absolument décisive, parce que nous avons choisi collectivement, nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons choisi de construire une union politique qui s'appelle l'Union européenne, au sein de laquelle s'applique, en vertu de l'acte unique, depuis l'acte unique c'est 1986, mais son application concrète, c'est-à-dire la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Europe, c'est-à-dire frontières entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, etc. Cette suppression, elle remonte effectivement à 1992. Et à partir du moment où on a fait ça, la maîtrise de l'immigration, elle se joue pour l'essentiel à nos frontières extérieures.
Mais est-ce qu'on l'a perdu ? C'est ça la question. Parce que là, il y a un affaiblissement économique de certains pays dû à la pandémie. On pense aux pays maghrébins. L'affaissement d'États comme le Mali. Comment contenir ces flux à venir venant ou transitant par des pays comme la Tunisie ou le Maroc ?
Eh bien, il faut être extrêmement ferme sur le contrôle de la frontière extérieure. Parce que si on n'est pas capable de contrôler correctement ces frontières extérieures, de stopper les migrants qui s'y présentent alors qu'ils sont dénués de tout visa, de tout titre de séjour, etc. Si on n'est pas capable de les contrôler à la frontière extérieure, l'expérience prouve qu'ensuite, une fois qu'ils auront pénétré sur le territoire européen, on aura beaucoup de difficultés à leur reconduire dans les pays d'origine.
Il y a la capacité, la volonté politique. Est-ce que nous l'avons suffisamment aujourd'hui ?
Alors, les Espagnols l'ont, à n'en pas douter. D'autres pays, d'autres pays européens en Méditerranée ont des difficultés considérables. C'est notamment le cas de l'Italie. Vous savez que l'île de Lampedusa est située à 120 ou 130 miles des côtes tunisiennes. Et donc l'Italie est soumise à une pression considérable. La Grèce, elle, comporte un chapelet d'îles qui sont à 30 km de la Turquie. Et donc ces deux pays, l'Italie et la Grèce, sont soumis à une pression considérable. Le gouvernement grec actuel fait preuve de beaucoup de fermeté.
Je vous cite d'ailleurs une phrase du commissaire grec et vice-président de la Commission européenne qui dit ceci: on ne peut protéger le mode de vie européen sans protection des frontières de l'UE. C'est une question de mode de vie, selon lui.
Oui, bien sûr, parce que si, encore une fois, si nous ne sommes pas capables de contrôler correctement la frontière extérieure, alors nous ne maîtriserons absolument pas l'immigration. Et on sait qu'une immigration excessive, et la France fait l'objet, je l'explique dans mon livre, fait l'objet depuis 20 ans d'une vague migratoire considérable, qui est souvent passée sous silence, alors qu'encore une fois, elle a été considérable. Et cette vague migratoire non maîtrisée pose des problèmes redoutables d'intégration. Donc moi, je n'hésite pas à dire qu'en effet, derrière la question de la maîtrise de nos frontières extérieures, derrière la question de la maîtrise de l'immigration, il y a le sujet de la maîtrise et de la conservation du mode de vie européen.
On va en parler pour la France avec des chiffres, et les chiffres sont têtus, mais il y a la réalité, Patrick Stefanini, de ces chiffres, et puis le choc des images, comme celle d'un bébé de quelques mois sauvé par un garde-côte espagnol, et cette image a fait le tour du monde. Est-ce qu'on peut mettre de côté l'émotion en parlant de ce sujet, ou est-ce que vous dites non, on ne peut pas agir avec des images aujourd'hui, compte tenu du défi que constitue ce sujet?
Alors, les dirigeants politiques sont forcément très sensibles aux images parce qu'ils en connaissent l'impact dans l'opinion publique. Je rappelle que la décision d'Angela Merkel en 2015 d'ouvrir les frontières de l'Allemagne, qui a marqué le début d'une vague migratoire considérable, hein, en 2 ans, 2015 et 2016, l'Allemagne a accueilli pratiquement 2 millions de migrants, et cela faisait suite à la découverte du cadavre d'un jeune enfant kurde, vous vous en souvenez?
Bien sûr, sur une plage.
Sur une plage, voilà. Donc forcément, les dirigeants politiques sont sensibles aux images. Bon, je rappelle quand même, pour que les choses soient claires, et on l'a vécu d'ailleurs dans les événements de Ceuta, que l'Union européenne s'honore de ne jamais refouler dans leur pays d'origine les mineurs étrangers. Autrement dit, les personnes qui sont mineures sont complètement à l'abri des mesures de reconduite.
Il y a aussi le pragmatisme, parce que par exemple, Patrick Stefanini, lorsque le haut commissaire au plan, François Bayrou, avance que pour répondre au défi d'une natalité en baisse dans notre pays et en France, l'immigration peut être un levier sous certaines conditions. Qu'est-ce que vous dites? C'est de la provocation en ce moment?
Alors, je dis que François Bayrou met le doigt sur un phénomène assez récent, qui est la baisse de la fécondité en France. Nous avions pendant longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, une fécondité qui nous permettait d'assurer le renouvellement de nos générations, de sorte que nous n'avions pas besoin d'immigration pour des raisons démographiques. Le démantèlement par François Hollande de la politique familiale...
Démantèlement, dites-vous, hein.
Oui, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Libération, il y avait en France une politique familiale qui faisait l'objet d'un certain consensus politique. Et cette politique, c'était une politique en soi, c'était pas une politique sociale parmi d'autres. François Hollande a voulu en faire une politique sociale parmi d'autres. Il a voulu notamment faire en sorte que l'attribution des allocations familiales tienne compte des revenus des familles bénéficiaires. Ça, c'est une rupture complète avec ce qu'était jusqu'alors la politique.
Et quelles conséquences cela a-t-il eu?
Il est sans doute trop tôt pour l'affirmer, il faudrait plus de recul. Mais enfin, il y a d'ores et déjà un certain nombre de démographes qui n'hésitent pas à dire que la baisse de la fécondité en France s'explique par la nouvelle politique familiale mise en œuvre par François Hollande. Donc François Bayrou a raison de pointer ce phénomène qui est inquiétant. Par contre, on sait de manière précise que ça a été démontré, on sait que si on veut se reposer sur l'immigration pour enrayer les conséquences négatives sur le plan économique de la baisse de notre démographie, on fait complètement fausse route. Il faudrait des volumes d'immigration absolument inouïs et sans aucun rapport avec la capacité d'accueil de notre pays pour compenser les conséquences en termes économiques de la dégradation du rapport.
Rappelons quand même, pardonnez-moi, qu'après chacune des deux guerres mondiales et surtout après la première, la France a eu recours à l'immigration Parce que la jeunesse française était décimée hein, sur les champs de bataille. Alors, Ce n'est pas une idée totalement farfelue.
Vous avez totalement raison. Simplement, la différence, c'est que la vague migratoire dont nous faisons l'objet depuis 20 ans, elle est sans lien avec notre démographie. Autrement dit, les phénomènes dont nous avons parlé, ils remontent à 7 ou 8 ans, alors que, encore une fois, la nouvelle vague migratoire dont la France fait l'objet, elle a pris naissance à la fin des années 90. Et au début des années 2000. Voilà, donc je pense qu'il faut, sur ces sujets, il faut parler avec précision. Ça ne sert à rien de s'enflammer. L'immigration est un phénomène naturel, c'est un phénomène humain.
Oui, mais c'est un sujet passionnel.
Mais il faut, alors c'est bien sûr un sujet passionnel, mais le rôle des experts, c'est de mettre un peu de raison dans
comment
dans...
on le fait ? Parce que vous vous dites, voilà les chiffres. Dans ce livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, vous dites par exemple, en 2000, la France a délivré 150 000 titres de séjour. En 2019, on a délivré 274 000, soit plus de 80%.
D'augmentation. L'augmentation a été de 83%.
Voilà. Ce qui vous fait dire qu'il y a une poussée migratoire sans lien, c'est ce que vous me disiez, avec la démographie ni l'économie. Mais moi, j'ai envie de vous demander, M. Stefanini, pourquoi elle est niée par une partie des démographes, alors cette réalité que vous décrivez ?
Parce qu'il y a une partie de l'école démographique française qui, pour des raisons probablement politiques et idéologiques, s'obstine à expliquer qu'il n'y a pas de difficulté avec l'immigration en France. Et ils se servent d'arguments qui sont en grande partie fallacieux. Par exemple, ils nous comparent avec l'Allemagne. J'ai dit moi-même que l'Allemagne avait accueilli énormément de migrants en 2015-2016. Mais d'abord, depuis l'Allemagne a refermé ses frontières, et alors qu'elle avait accueilli 1 million de demandeurs d'asile en 2016, en 2019, elle a accueilli moins de demandeurs d'asile que la France. Ça, c'est le premier constat.
Oui, mais ces mêmes démographes vous disent que notre solde migratoire reste faible en France.
Oui, mais alors ça, on est à la limite, de l'escroquerie intellectuelle, parce que... Parce que le solde migratoire, il faut le décomposer. D'un côté, il y a le solde migratoire des immigrés, c'est la différence entre le nombre des immigrés qui arrivent en France et le nombre des immigrés qui repartent. Et ce solde migratoire-là, qui est le seul qui nous intéresse si on veut analyser l'immigration, ce solde migratoire, il est très positif. Il est très supérieur aux 50 000 personnes dont parlent certains démographes. Il est aujourd'hui de l'ordre de 170 000 à 180 000 personnes. Et par contre, il est compensé par le solde migratoire des Français, c'est-à-dire la différence entre le nombre des Français qui quittent notre territoire et ceux qui y reviennent. Et il se trouve que la France devient progressivement, pour d'autres raisons, ce n'est pas le sujet ce matin, mais devient progressivement un pays d'expatriation pour un certain nombre de Français.
Et vous réfutez donc ce que disent une partie, on dit bien une partie des démographes. En réalité, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, Monsieur Stefanini, est-ce qu'on a encore notre souveraineté ou bien est-ce qu'on l'a déléguée à l'Union européenne, cette souveraineté sur un sujet aussi sensible qu'est celui de l'immigration ?
Alors, l'Union européenne joue aujourd'hui un rôle majeur dans la maîtrise des phénomènes migratoires. Moi, je suis moins sévère que beaucoup d'observateurs. Je remarque d'ailleurs que, s'agissant du contrôle des frontières extérieures, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu en février 2020, un arrêt très important au sujet de Ceuta et Melilla, dans lequel elle a consacré la légitimité des autorités espagnoles à contrôler la frontière extérieure et à refouler les migrants qui tentaient à l'époque déjà de prendre d'assaut les grilles qui protègent les deux enclaves espagnoles. Et je crois que tout ça est une question de volonté politique.
Mais alors
bien sûr, il y a la jurisprudence européenne.
Vous avez conseillé quand même le candidat François Fillon, mais aussi Valérie Pécresse. Pourquoi cette question reste taboue et pourquoi on ne se saisit pas, avec un volontarisme certain, de ces chiffres aujourd'hui ?
Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de consulter les Français par référendum pour leur demander un mandat clair sur ces sujets. Par exemple, pour mettre en place une politique de quotas qui serait aujourd'hui indispensable, eh bien, il faut faire une réforme de la Constitution. On sait qu'en France, il y a deux manières pour faire une réforme de la Constitution. Il y a la voie parlementaire, il y a la voie référendaire. La voie référendaire aurait le mérite de donner aux dirigeants politiques nouvellement élus, parce que je crois que c'est une réforme qui peut se faire après l'élection présidentielle, un mandat populaire clair.
C'est donc une question à chaque fois de volonté politique.
C'est largement une question de volonté politique. C'est aussi une question où il ne faut pas se tromper d'objectif. Et j'apporte dans mon livre toute une série de données chiffrées pour qu'encore une fois, le phénomène soit apprécié à sa juste valeur.
Ce livre qui s'intitule « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » chez Robert Laffont. Merci Patrick Stefanini d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous dans un instant, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30, un nouveau point sur l'info sur Europe 1 avec Émilie Dez.
La vaccination sera ouverte à tous les adultes dès le 31 mai au lieu du 15 juin comme c'était prévu. Un nouveau coup d'accélérateur de la campagne de vaccination annoncé hier par Jean Castex. Nous en sommes désormais à 22 millions de Français vaccinés, soit 33% de la population. Avec cet élargissement, Anne Le Gall, le gouvernement espère tenir ses objectifs de l'été.
Oui, l'objectif, c'est que tous les adultes volontaires soient vaccinés d'ici la fin de l'été et qu'il y ait 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin. Concrètement, pour tenir la cadence, il faut donc 320 000 premières injections 7 jours sur 7. Et comme désormais, nous avons les doses pour répondre à la demande, quel que soit l'âge, il n'y avait plus de raison d'attendre. En juin, nous recevrons au total 32 millions de doses de vaccins, dont 20 millions de vaccins Pfizer, qui sont justement ceux destinés aux adultes de moins de 55 ans. Et d'ailleurs, l'autre annonce d'hier, c'est que la vaccination sera possible pour les professionnels prioritaires sans limite d'âge dès le 24 mai. Les enseignants, policiers, caissiers, chauffeurs de bus ou taxi pourront donc prendre rendez-vous dès lundi. Et d'un point de vue logistique, on peut rappeler également qu'en plus des centres de vaccination, les médecins et pharmaciens pourront vacciner eux aussi avec de l'ARN messager à partir de la semaine prochaine, ce qui contribuera à fluidifier la prise de rendez-vous.
Anne Le Gall pour Europe 1. La vaccination qui va faciliter les voyages, au moins en Europe. Un accord a été trouvé à Bruxelles sur l'instauration d'un certificat sanitaire. Il entrera en vigueur le 1er juillet. Grâce à un QR code, le document permettra soit d'attester que vous êtes vacciné, immunisé contre le virus ou que votre test PCR est négatif. Le retour du train couchette, le Paris-Nice qui a repris du service après 3 ans de fermeture à son bord. Le Premier ministre Jean Castex qui va arriver en gare tout à l'heure à 9h11. Un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit entre Israël et le Hamas. Une trêve après 11 jours de combat et au moins 240 morts, dont plus de 60 enfants. Le président américain Joe Biden salue une vraie opportunité d'avancer vers la paix. Les 43 000 places d'hébergement d'urgence créées pour les sans-abri pendant la crise sanitaire vont être prolongées jusqu'à la fin mars 2022 au moins. Coût total de l'opération 690 millions d'euros. Presque 6 mois que la Tour Eiffel n'accueille plus de visiteurs à cause de la pandémie. Cette fois, c'est officiel, elle va rouvrir le 16 juillet au public. La capacité d'accueil sera réduite, certes, mais pas de quoi entacher l'enthousiasme de Jean-François Martin, le président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il attend les touristes de pied ferme.
La Tour Eiffel était impatiente de réouvrir et de pouvoir accueillir les visiteurs. Alors même si les jauges seront levées d'ici là, afin de respecter la distanciation sociale et l'obligation évidemment que chaque visiteur soit à 1 mètre de son voisin, c'est surtout les cabines d'ascenseur qui sont impactées puisque celles-ci ne pourront fonctionner qu'à 50% de leur capacité avec 25 personnes au lieu de 50 dans la cabine. Et c'est pourquoi on pourra accueillir 10 000 visiteurs par jour au lieu des 25 000 normalement de la période estivale. On aura accès à la fois au parvis, au premier étage, au deuxième et puis évidemment à la vue splendide sur Paris depuis le 3e étage où on peut même en toute modération, prendre une coupe de champagne.
Et vous pourrez réserver vos billets à partir du 1er juin.
Merci beaucoup Émilie Dez, il est 8h34 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. Oula, vous avez noté griffonné sur vos feuilles blanches. Dites-nous tout, c'est vrai écouté, que c'est pas fameux. Hein.
J'ai écouté la Tour Eiffel parce que ce soir on a fait une émission directe de la Tour Eiffel, on s'est régalé.
C'était génial, c'était absolument génial d'avoir accès comme ça à la Tour Eiffel en pleine nuit. Ouais. C'est une nuit au musée en fait.
Ils sont en train
le film avec Ben Stiller.
Ils sont en train de la repeindre je crois aussi.
Bon, alors, imaginez Laurent Cabrol, vous étiez au 3e étage tout seul. Comme ça, vous sentez le vent passer.
La pluie, justement, la Tour Eiffel, elle peut observer au lointain ce qui se passe. Finalement, Paris sera touché aussi par la pluie, mais ce forme d'averses, ces averses seront quand même assez discrètes aujourd'hui, sont moins importantes que ces jours derniers. La pluie sera surtout présente sur l'Aquitaine, le Béarn, le Lot-et-Garonne, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le Haut-Rhin, qui sont des régions aujourd'hui bien arrosées, si je puis dire. Près de la Manche, il y a beaucoup de vent, soyez vraiment vigilants. Val-de-Loire, Berry, Bourgogne, Lorraine et Champagne-Ardenne, là nous aurons un temps souvent ponctué d'averses et d'orages. Les températures entre 15 et 21 degrés. Et puis sachez que le congé de fin de semaine s'annonce de la même veine, avec quand même dimanche la journée la moins arrosée et puis surtout les températures très fraîches pour tout le monde.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous restez bien sur Europe 1, notre planète, Fanny Agostini, la revue de presse, Nicolas Canteloup. Mais avant tout cela, notre santé avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1.
Et je vous propose ce matin de prendre soin du cœur des femmes et plus précisément de leur santé cardiovasculaire.
A tout de suite.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed avec nous et la prestigieuse revue scientifique The Lancet qui lance un appel pour lutter contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes.
Oui, 17 expertes issues de 11 pays différents formulent des recommandations pour prendre soin de la santé cardiovasculaire des femmes, car des maladies comme l'infarctus du myocarde ou l'insuffisance cardiaque pourraient représenter dans le monde 35% des décès parmi elles en 2035. Le constat est simple, les maladies cardiaques chez les femmes sont insuffisamment étudiées, peu connues, sous-diagnostiquées et sous-traitées par rapport aux hommes du même âge.
Mais comment expliquer cette inégalité entre les hommes et les femmes ?
Alors, on a longtemps dit que les femmes étaient protégées des maladies cardiovasculaires, notamment grâce à leurs hormones, et que le risque de faire par exemple un infarctus débutait au moment de la ménopause. Sauf qu'avec le temps, les femmes ont adopté les mêmes comportements que les hommes. Elles se sont mises à plus fumer, boire un peu plus d'alcool, avoir une vie encore plus stressante avec plus de surmenage, plus de surpoids, un peu moins d'activité physique. Et donc, forcément, la tendance s'est inversée. Elles sont victimes de ces maladies de plus en plus jeunes et les hospitalisations, par exemple, pour un infarctus du myocarde entre 45 et 54 ans ont même progressé chez les femmes alors qu'elles baissent chez les hommes.
Et comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance ?
Alors, il n'y a pas de miracle, hein. Tout passe évidemment par de la prévention et cela commence tout simplement par contrôler votre tension artérielle. Je vous rappelle qu'un Français sur cinq en France en souffre et que l'hypertension est un tueur silencieux. Car vous pouvez avoir une tension extrêmement élevée sans aucun symptôme, mais je ne vous donnerai qu'un seul chiffre. Une femme de 40 ans qui a de l'hypertension, c'est-à-dire juste une tension au-dessus de la normale, a deux fois plus de risque de faire un infarctus du myocarde. Pourtant, contrôler la tension, c'est vraiment à la portée de tous. Encore faut-il faire le diagnostic. Et pour ça, je vous recommande de vous rendre chez votre médecin traitant, même lorsque tout va bien. Et au moindre doute, il vous proposera un bilan sanguin tout simple pour dépister par exemple un diabète, du cholestérol, faire le point sur la consommation de tabac ou d'alcool. Enfin, je vous rappelle que les femmes ont tendance à négliger leurs symptômes en cas de douleur thoracique. Et donc, en cas de douleur à la poitrine, d'un essoufflement, d'apparition brutale, d'un petit malaise, même qui paraît anodin, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est pas de continuer votre vie, c'est d'appeler le 15 pour avoir un avis médical urgent.
Merci Jimmy Mohamed, il fallait le souligner absolument évidemment, Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins. Et entre 15h et 16h, on vous retrouve dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez sur Europe 1.
Oui, nous parlerons de vaccination en reprenant la base. Qu'est-ce qu'un vaccin, un adjuvant? Et donner quelques perspectives extraordinaires de guérison de certains cancers grâce justement au vaccin ARN.
Eh bien, à tout à l'heure, 15h, Sans Rendez-vous sur Europe 1. Il est 8h40, très bon réveil à tous, notre planète, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on était sur le vaccin à l'instant là, vous allez nous parler des masques.
Oui.
Une entreprise prend l'initiative, il était temps, de récupérer ces masques pour les réutiliser dans l'industrie automobile.
Oui, c'est ça. Dans l'industrie automobile, une entreprise des Hauts-de-Seine se charge d'aller collecter les masques là où ils sont jetés en grande quantité, notamment dans les hôpitaux. Pour le moment, il y a 3 hôpitaux parisiens qui participent à l'expérimentation ainsi que la collectivité des Hauts-de-Seine. Des camions viennent collecter les masques tous les 15 jours et après une semaine de quarantaine, ils sont expédiés dans le Nord pour être broyés afin d'en extraire le polypropylène, un plastique qui sera ensuite transformé en granulés pour fabriquer des tapis de sol ou d'autres pièces de l'habitacle automobile.
Alors, quelle est la proportion de masques qui sont ainsi recyclés, Fanny ?
Alors, la filière, il faut le dire, hein, a mis pas mal de temps quand même à se mettre en place. Voilà pourquoi l'entreprise a pu collecter et faire traiter 1 tonne de masques jusqu'à maintenant. Elle espère, cette entreprise, en traiter 20 tonnes d'ici la fin de l'année, sachant qu'en 2020, 40 000 tonnes de masques ont été jetées sans aucune solution de recyclage. Ces innombrables masques et leurs 90% de plastique polypropylène sont donc partis à l'incinération. À l'échelle mondiale, c'est 129 milliards de masques qui sont utilisés tous les mois et se retrouvent très souvent dans la nature. En fait, le problème de ces masques n'est pas le manque de filières de tri, mais plutôt la difficulté de les collecter avant qu'ils ne finissent à la poubelle.
Alors d'autres initiatives de la sorte ont permis de réutiliser intelligemment cette ressource en polypropylène, vous dites ?
Oui, le polypropylène. Vous avez peut-être entendu parler de la société Plaxtil qui fait parler d'elle avec cette méthode de broyage et elle a eu recours aussi à des entreprises d'insertion pour collecter les masques. La start-up GobUse, qui recycle habituellement les gobelets, a opté pour la reconversion des masques en briques de construction à la manière du recyclage des fibres textiles. Au Royaume-Uni, des hôpitaux se sont équipés de compacteurs directement dans l'hôpital qui transforment les masques en matériaux
dans
pour faire du mobilier. Oui, dans l'hôpital, pour faire du mobilier de jardin. Oui, carrément. Et puis on a d'autres exemples en Australie.
On va refaire la véranda en masque.
C'est ça.
Mais pourquoi pas ?
C'est ça. Effectivement. En Australie, des chercheurs se penchent sur la combinaison de ces fameux masques et de déchets de chantier pour faire un revêtement routier flexible et plus robuste. Bref, vous avez compris que les idées ne manquent pas. Et indépendamment de la pandémie, les masques seront toujours des objets nécessaires à la durée de vie limitée. À terme, ils ne devraient plus être incinérés, mais réemployés partout où le polypropylène est utile, c'est-à-dire dans d'innombrables objets du quotidien.
Et oui, parce qu'on ne sait pas à quoi faire en vrai de cette pollution du quotidien depuis l'arrivée de cette pandémie de Covid. Eh bien, si, en fait, on sait quoi faire. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour récolter tous ces masques. Merci Fanny Agostini. Notre planète des solutions tous les matins sur Europe 1. 8h43. Dans un instant, Nicolas Canteloup avec Julie qui s'installe. A tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on vous retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. On y va.
Eh oui, oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour à tous les mélomanes qui nous écoutent, car ce matin, vous l'avez entendu, je recevais le chanteur Hervé.
Il
nous fait la gentillesse d'être resté avec nous. Bonjour Hervé. Alors vous avez là eu la chance de jouer au Stade de France. Bon, il était vide, mais racontez-nous un petit peu. C'est passionnant votre aventure.
Ouais, c'était incroyable parce que le Stade de France, c'est mythique,
c'est une scène.
Ouais, c'est mythique. Et là, il n'y avait personne, c'était génial. Pour la télé, j'avais déjà eu la chance de jouer à l'Olympia vide, à Mogador également vide. Là, j'aimerais bien jouer à Bobino vide. C'est vraiment mon objectif. Au Folies Bergère vide. J'ai jamais fait cette salle vide. Puis faire une tournée Zénith, où il n'y aurait personne, sans public. Que ça sonne creux. Parce que là, du coup, ça donne un son intéressant. Tu vois.
Et donc, Hervé, vous sortez un album, c'est ça?
Oui, oui, j'espère qu'il ne se vendra pas. Parce que comme ça, je pourrais le jouer sur un public. J'adorerais jouer, ce serait le Graal, sur un parking de Leclerc en province, sans prévenir les gens. Parce que si tu préviens les gens, en fait, ils viennent et c'est pas le but, quoi. C'est de jouer vide.
C'est génial.
Merci Hervé. On souhaite beaucoup de succès, Hervé. Ce sera pas compliqué. Ah ben non, pardon, on vous en souhaite pas. Et oui, c'est étonnant. Allez, l'actu. Et oui, c'est l'info décalée un peu, Europe 1, c'est ça. Il n'y a que sur Europe 1 que ça se passe. L'info du jour, c'est cette phrase du syndicat de police Alliance qui suscite la polémique. Le plus grand ennemi de la police, c'est la justice. Éric Dubourg-Moretti, bonjour.
Bonjour. Monsieur Béliard, cette phrase, vous l'avez dit, me choque. Et le plus grand ennemi de la police, ça n'est pas la justice. Un autre ennemi me semble plus évident.
Oui, le délinquant, le voyou.
Non, je pensais plus au baccalauréat, voyez-vous. Aux études de droit.
Oh, aux études
ça
de
me
droit.
Semble plus naturel comme né ennemi du policier. Excusez-moi, monsieur. Mais c'est vrai, je suis un peu énervé, je n'ai pas apprécié, vous l'avez compris, cette sortie.
Bon, bah écoutez, messieurs, on espère qu'on n'aura pas de problème avec la police hein, prochainement. On va vous laisser et on enchaîne. Allez, on va passer au déconfinement et le gouvernement qui craint que la réouverture soit un petit peu trop rapide.
Oui, et pardon, excusez-moi d'intervenir dans votre matinale. Mm-hmm. Bonjour, Mme Julie,
bonjour. Monsieur
Béliard. Excusez-moi, je m'immisce, j'adore m'immisquer. Écoutez, oui, je trouve que ça va. Moi, je trouve que ça va un peu vite, ces réouvertures. C'est pas prudent. Tenez, là, on a ouvert le procès Big Malion. Est-ce que c'est bien raisonnable, je pose la question. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre l'avis des scientifiques, franchement?
À ce propos, vous avez dû entendre Éric Dupond-Moretti, là. À l'instant, on parle beaucoup de l'opposition police-justice. Une réaction, M. Sarkozy?
Oui, mais écoutez, j'ai entendu ces critiques. Certains parlent en ce moment de la justice laxiste, de la justice angélique permissive. Bon, ben moi je trouve pas. Je la trouve même archi très professionnelle. Mais peut-être un peu même trop zélée, même. Non, il faut plus de laxisme dans la justice. Je le dis aux juges, laxiser. Faut laxiser les juges. On ne vous laisse pas suffisamment laxiser.
Comme ça, c'est clair. Allez, merci Nicolas Sarkozy.
C'est un verbe du premier groupe.
Oui, oui, ben on a bien compris, on conjuguera nous-mêmes. Allez, on va revenir sur la réouverture des terrasses. Bruno Le Maire a posté une photo de lui sur Twitter en train de déguster un café. Photo légendée, l'art de vivre à la française. Bonjour Monsieur Le Maire.
Ah, Madame Julie,
hein,
l'art de vivre à la française. Mmh. Franchement, le petit café en terrasse, j'ai envie de dire, what else?
Ah, bien joué.
Oh, bien la régie. Il y avait longtemps qu'il ne m'avait pas habitué à autant de réactivité. Vous avez vu? C'est tombé pile poil. Oh, oh mais la régie, hein, c'est le cirque du soleil aujourd'hui. Hein. C'est une précision. C'est... Ah, oui, là, j'ai fait mon mannequin espresso sur Twitter. Oui, ah, Georges Clooney, Bruno Le Maire, même charisme, même combat.
Même charisme. Ben, les Français étaient nombreux à faire la queue devant les magasins hier. Hein. On a vu des files d'attente devant H&M, Primark, Zara.
Oui, bah écoutez, ça, on s'y attendait. Les Français n'aiment pas bosser. Alors, c'est sûr qu'ils n'allaient pas avoir les moyens de faire la queue devant Dior ou Saint-Laurent. Hein. Mais oui, les feignasses, quand on refuse de faire des heures sup, on doit s'habiller chez Primark, c'est tout.
Et puis, devant les cinémas aussi, il y a eu de longues files d'attente, hein, même si les jauges étaient limitées à 35% dans les salles. Hein.
Oh, rendez-vous compte, 35% de la salle était pleine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel score pour des films français.
Oh,
c'est 13 fois plus que le remplissage habituel. Donc vraiment, ça repart ce chapeau de roue, le cinéma français.
Allez, merci. Bonne journée, monsieur le maire. C'est une info curieuse, mais bien réelle. Une place sur 10 en EHPAD n'est pas occupée. Les Français boudent leurs EHPAD, qui sont obligés de casser les prix hein, pour attirer les seniors. Bonjour, Jean Castex.
Oui, bonjour, madame Julie.
Vous êtes bien réveillé dans votre train, là, oui, ça...
Monsieur Mohamed, oui.
Oui,
bonjour, bonjour à papy et à mamie qui espèrent de nouveaux voisins, car il reste des places dans nos EHPAD.
Les EHPAD n'ont pas toujours bonne réputation. Hein. Comment faire pour donner envie aux Français d'y retourner, d'y recourir aux EHPAD?
Alors justement, c'est bien que vous en parliez parce que j'ai mis en place, n'est-ce pas, un numéro vert afin de décrire nos services pour être plus attirant. Mm. Vous voulez que je vous fasse le
démonstration ? Allez-y, oui, bien sûr, oui, dites-nous.
Alors regardez.
Alors. Oh mon Dieu. C'est quoi cette musique?
Bonjour, petite mamie. Bonjour, viril papy. Tu veux rencontrer les infirmières les plus chaudes de ta région?
Oh non.
Tu souhaites participer à des activités de groupe parmi les plus sensuelles comme regarder Télématin, faire un bingo, manger des pruneaux dénoyautés ou participer à un atelier collage de dentiers avec des animatrices olé olé? L'EHPAD des chrysanthèmes t'attend dans une atmosphère javelisée mais sexy. Avec un menu varié à base de soupe, de compote et de perfusion qui enchantera les plus gastronomes d'entre vous.
Oh, quelle horreur.
Alors rejoins-nous dans un monde de plaisir et de cola dentier. À ton âge, il n'y a plus une seconde à perdre. Tape tout de suite 36 15 ou là. Ah oui, oula, oui, c'était une jeune trentenaire sublime dans les années 80.
Ben voilà,
c'était
oui.
Il y a 40 ans. Maintenant, c'est une belle septuagénaire. Ah si, elle est pas mal pour son âge. Je vous la présenterai, monsieur Cabrol.
Ah, c'est toujours la même Ula, alors.
Ouais, c'est la même.
Ah, ben dis donc.
Sur Minitel, elle était.
Merci, monsieur Castex. Allez, toute autre
J'en
chose.
Prie.
Toute autre chose. Laetitia Hallyday a décidé de vendre tous les meubles choisis par Johnny dans sa maison de Los Angeles. Bonjour, Laetitia.
Ah oui, bonjour ma Julie. Oh, bonjour mes amis pauvres qui écoutent aussi. Et alors dépêche-toi si tu veux faire une affaire et que tu es une amie pauvre. Ça part vite ici. Allez, tout à des balles ou balles.
Mais enfin, c'est pas très chic de faire ça, franchement.
Mais si, c'est chic. Je vends une étagère, par exemple, à Santiago. Une étagère à Santiago, c'est très chic, une étagère à Santiago. J'ai aussi un sèche-banane.
C'est quoi ça?
Oui.
C'est quoi?
C'est comme un sèche-cheveux, mais pour la banane. Ça vous intéresse, Mathieu? Ah, puis aussi, j'ai des belles portes aussi.
Mais enfin, personne va acheter des portes.
Mais ici, c'est les portes du pénitencier. Attention, elles vont bientôt se refermer.
Joli, bien.
Allez, vite, profitez-en. Allez, je vous les fais à 1000 dollars, les portes. Ça gagne pas, ça débarrasse. Allez.
Non, mais enfin, c'est pas très sympa pour la mémoire de Johnny de vendre tout ce qu'il avait choisi lui-même.
Non, de vendre tout, mais attends, je vends pas tout, mais Juju.
Ah bon.
Par exemple, j'ai pas vendu sa cave.
Ah bah pourquoi? Pourquoi vous avez pas vendu sa cave?
Mais parce qu'elle était vide.
Merci Laetitia.
Allô, tu connais ça, hein, toi?
Je crois qu'il peut être coupable, Laurent.
Non, il est écroulé, là, la cave vide. Merci Laetitia, à très bientôt.
Je t'embrasse.
Et puis c'est samedi qu'aura lieu l'Eurovision, bien sûr, on n'y croit plus que jamais hein, aux chances de notre candidate Barbara Pravi. Bonjour Stéphane Bern.
On va gagner, on va gagner.
Ah, vous y croyez Stéphane hein.
Oh, écoutez, on en avait ras le pompon de terminer dernier de l'Eurovision. Ah, alors sûr, cette année, ouais. On a une idée, ouais. On va les arnaquer ces cons-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on leur a mis Edith Piaf, voilà. Et voilà, l'arnaque, voilà. Bon, c'est une Edith Piaf un petit peu repimpée. Hein, une Edith Piaf, comment vous dire, 2.0. Parce que la pauvre Edith, elle ressemblait à un vieux radis noir rabougri, on s'en souvient. Non, là, on a pris une jeune bombasse, on lui a mis la même perruque de bouclette à la con qu'Edith, on a changé la petite robe noire en bustier noir et mini-jupe pour qu'on y voit quand même un peu la boule, tu vois. Et roule ma poule avec le boule. On a gagné l'Oscar Hollywood en déguisant Marion Cotillard en Piaf. On recommence la même attaque, ça a déjà marché.
Alors
cette vanne-là, lundi matin, génial. Si on a gagné, c'est...
Alors, cette jeune chanteuse s'appelle donc Barbara Pravi, elle est française d'origine serbe.
Oui, bon, d'habitude, les contrefaçons viennent de Marrakech. Là, elles viennent de Serbie. Non, mais moi, j'y crois quand même.
Vous pensez qu'on a une chance de gagner cette année, Stéphane?
Ah non. Mais aucune. Non, on va finir dernier comme tous les ans. Mais il faut bien que je fasse semblant qu'on a une chance, sinon personne ne va regarder mon émission.
Oh là là, pauvre. Allez, bonne chance à Barbara.
Nicolas Canteloup.
Madame, bah oui, c'est pareil.
Je m'attendais à Hervé, moi, du coup, je suis perdu maintenant.
Ce matin, Edith, c'est un jukebox.
Barbara Pravi. Ah ouais, Nicolas Canteloup, bravo. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Julie, merci, bon week-end. Et on salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Il est 8h56. Philippe Vandel est là.
Ouais,
bonjour. Culture Média va démarrer.
Bonjour Mathieu, on va recevoir celui qui était le plus jeune ténor du monde il y a 10 ans. Il avait 21 ans, mais il en a 31, c'est Amaury Vassili. Il était favori à l'Eurovision, il est français, il a fini 15e. Là, il sort avec son nouvel album, il s'appelle Crescendo. C'était pour faire lien avec ce que racontait Nicolas Canteloup.
Objectif, faire mieux que 15. Alors.
Exactement. Notre info média, une étude surprenante. Pendant le premier confinement, un Français sur 10 se serait lancé dans la rédaction d'un manuscrit. Ça fait 5 millions de personnes. Vous allez pouvoir prendre des notes puisqu'on va s'intéresser à un hors-série du magazine Lire qui propose des conseils, des astuces pour écrire.
Combien de Français?
Pour se faire éditer 10% si on compte 50 millions d'adultes. Wow. Ça fait 5 millions de Français qui ont essayé d'écrire un livre, une pièce de théâtre ou des nouvelles. On sera avec Baptiste Ligier, le patron de la rédaction de la revue. Et puis au sommaire également, la deuxième saison de la série policière Astrid et Raphaël de France 2. C'est une série non pas sur l'autisme, mais une série dont l'un des personnages est autiste. Nous serons avec la comédienne Lola Devers et l'écrivain Hugo Loriot, lui-même atteint de troubles autistiques et il est référent autisme sur la série.
Philippe Vandel, Culture Média, j'ai bien saisi la nuance. C'est pas une série sur l'autisme, mais avec une personne autiste. À noter et à écouter dans Culture Média à 9h-11h sur Europe 1, la matinée qui continue. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi, dimanche. Moi, je reviens lundi matin en direct dès 7h.
Ouais.
Oui, Philippe.
Vous apprendrez qu'il y a de l'imprévu prévu et de l'imprévu imprévu.
Comme à la radio.
Exactement.
Comme à la radio, finalement. Je reviens lundi 7h. D'ici là, le monde aura changé. Et peut-être qu'on aura gagné l'Eurovision. On va vous le raconter.